Par cet enregistrement audio, je viens vous rejoindre pour cette conférence de mercredi matin qui doit faire suite aux deux premiers temps d'accueil de la parole de Dieu, le premier temps de lectio que vous avez pris hier soir en découvrant les références prévues pour aujourd'hui et le deuxième temps de lectio, celui de ce matin, qui vous a permis d'approfondir le sens de ces textes et d'entrer dans la méditation. Commençons cette conférence en nous mettant encore à l'écoute de la parole du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De la première épître de saint Pierre. En obéissant à la vérité, vous avez purifié vos âmes pour vous aimer sincèrement comme des frères. Aussi, d'un cœur pur, aimez-vous intensément les uns les autres, car Dieu vous a fait renaître non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. C'est pourquoi il est écrit « Toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme l'herbe en fleur. L'herbe se dessèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure pour toujours. Or, cette parole est celle de la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Rejetez donc toute méchanceté, toute ruse, les hypocrisies, les jalousies et toutes les médisances. Comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé de la parole qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est bon. » Parole du Seigneur. Ce qui est merveilleusement résumé ici par l'apôtre Saint-Pierre dans sa première épître, c'est bien tout le sens de l'expérience vécue par ses deux disciples sur la route d'Emmaüs d'abord, à Emmaüs ensuite, et enfin lorsqu'ils ont retrouvé les autres disciples à Jérusalem. Comme il est impressionnant ce moment où, après avoir fait l'expérience de la rencontre avec le ressuscité, et surtout, je reviendrai dans un instant, après avoir fait l'expérience de la présence du ressuscité, ils peuvent se dire l'un à l'autre « Notre cœur n'était-il pas tout brûlant au-dedans de nous, tandis qu'il nous parlait en chemin et qu'il nous expliquait les Écritures ?» C'est effectivement cette parole donnée par le Christ ressuscité en chemin qui a tellement transformé leur cœur qu'ils ont vécu ce dont parlait saint Pierre. Dieu les a fait renaître, non pas d'une semence périssable, mais d'une semence impérissable, sa parole vivante qui demeure. Ils ont goûté cette parole de la bonne nouvelle, comme le dit encore saint Pierre. Et cette parole a tellement transformé leur cœur, je vous le disais, que alors qu'au début du récit, ils se parlaient l'un à l'autre de tout ce qu'ils ne comprenaient pas, au point, comme le précise saint Luc, qu'ils avaient le visage sombre. Désormais, après la rencontre du Christ ressuscité et surtout le don de sa parole, ils se rendent compte que leur cœur est tout brûlant. Et ils partent rapidement partager cette bonne nouvelle avec les autres disciples rassemblés à Jérusalem. Dans la première partie de la conférence de ce matin, je voudrais, comme je le ferai à chaque fois, ouvrir quelques pistes de méditation, plutôt prolonger la méditation que vous avez pu vivre vous-même en insistant sur quelques aspects de ces textes de la parole de Dieu qui nous sont donnés pour cette première journée de retraite. Tout d'abord, le thème de chacune de nos journées sera marqué par une ou plusieurs figures de ces témoins du Christ ressuscité. Passer par des figures bibliques pour recevoir le don de la parole, c'est un choix qui veut mettre en valeur l'importance dans toute la révélation biblique de la rencontre que le Seigneur veut vivre avec chacun. Dans cette rencontre, il y a toujours une dimension éminemment personnelle. Le Seigneur vient à la rencontre d'une personne précise. Et à partir du moment où il rencontre cette personne, il y a dans l'expérience qu'a vécue cette personne quelque chose qui est communicable, qui peut être partagé. Et les textes bibliques s'emploient notamment par les récits, mais aussi par un certain nombre de discours. On peut penser aussi aux lettres de saint Paul, justement à partager tout ce que ces figures bibliques ont vécu dans leur rencontre personnelle avec le Seigneur et qui peuvent ainsi guider notre propre cheminement et notre propre rencontre avec le Seigneur. En passant aussi par des figures, cela permet de prendre en compte toute la réalité de l'histoire humaine. C'est bien dans notre histoire que le Seigneur veut venir nous rejoindre. C'est lui qui vient nous rejoindre sur nos routes. C'est peut-être pour cela d'ailleurs que dans le grand texte de ce jour sur les disciples d'Emmaüs, la route d'Emmaüs a tant d'importance au début du récit et même dans une bonne partie du récit. Le Seigneur est celui qui vient nous rejoindre sur la route de notre vie humaine, de notre propre histoire. Et c'est parce que sa parole précisément vient illuminer, transfigurer notre histoire que l'on peut parler d'histoire sainte. Non pas seulement dans la Bible, mais bien aussi pour chacun de nous. Voyez comment chacune des figures que nous allons croiser durant cette semaine de retraite, chacun de ces témoins, viennent éclairer ce qui est notre propre parcours, notre propre cheminement et notre propre vocation à la rencontre du Christ et à la rencontre de nos frères. Enfin, dernière réflexion sur ces figures, nous allons rencontrer ces figures, nous allons méditer sur la manière dont les textes de la Bible rapportent l'expérience que ces témoins ont faite du Christ ressuscité. N'oublions pas également que nous pouvons invoquer ces figures, que nous pouvons les prier, que nous pouvons leur demander de nous accompagner durant ce temps d'accueil de la parole pour qu'ils nous aident à forger en nos cœurs des cœurs de disciples témoins de la bonne nouvelle du salut. Arrêtons-nous quelques instants sur ce grand récit de Saint Luc de la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs. Cet après-midi, je reviendrai un peu plus probablement sur l'autre texte important de ce jour qui est la rencontre de Philippe avec l'eunuque de la reine Candace et sur les liens que l'on peut faire entre ces deux textes, le premier dans l'Évangile et le second dans les Actes des Apôtres. Mais pour ce matin, regardons cette rencontre et la pédagogie de cette rencontre. Saint Luc accorde une très grande importance dans son chapitre sur les manifestations du ressuscité. Saint Luc accorde une très grande importance donc à cette rencontre-là, qui devient une rencontre à la fois fondatrice et comme emblématique de toute expérience que les disciples, que des chrétiens peuvent faire du Christ ressuscité. Jésus, en rejoignant les disciples sur leur route, va les faire passer de la quête d'une visibilité à la découverte d'une présence. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Ainsi s'exprime Cléophas à Jésus qui les a rejoints sur la route d'Emmaüs. Les disciples expriment un désir qui est parfois le nôtre aussi, celui de voir Jésus, de voir Jésus ressuscité, comme s'il fallait le voir pour en faire l'expérience. Mais le paradoxe, évidemment, c'est qu'au moment où ils manifestent cela, Jésus lui-même est celui qui marche avec eux, qui les écoute, mais leurs yeux, comme le dit le texte, étaient empêchés de le reconnaître. Et il va falloir toute la pédagogie que Jésus va mettre en place pour qu'ils découvrent que le plus important pour la vie chrétienne, ce n'est pas de voir Jésus ressuscité, mais c'est bien de faire l'expérience de sa présence. Et cette expérience de la présence qui va passer tout d'abord par l'ouverture des cœurs à l'écriture, par l'accueil de la parole qui rend leur cœur tout brûlant, et ensuite qui, arrivé à Emmaüs, va passer par le geste de la fraction du pain, c'est-à-dire de l'Eucharistie, l'expérience donc de cette présence va devenir suffisamment forte pour que ensuite Jésus puisse disparaître à leur regard sans qu'ils en soient plus tristes ni malheureux, mais au contraire, ils restent dans la joie, cette joie communicative qu'ils vont partager avec les autres disciples à Jérusalem. Ainsi, les trois lieux, en quelque sorte, de manifestation du ressuscité, et ce qui est vrai pour les disciples l'est également pour nous, ce sont d'abord l'accueil de la parole de Dieu qui permet le cheminement, l'accueil de la parole de Dieu en chemin. C'est ensuite la fraction du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie, au lieu du repos. Et c'est enfin la communauté chrétienne rassemblée et la communion fraternelle exprimée ici à Jérusalem. si nous restons dans la perspective que je vous avais proposée pour la méditation, eh bien, nous pouvons d'abord contempler le soin que Jésus prend pour manifester sa présence, pour se rendre présent à notre vie, par ces trois moyens, entre guillemets, sa parole, son Eucharistie et la rencontre du frère. Ensuite, nous pouvons regarder comment est-ce que nous investissons nous-mêmes ou comment est-ce que nous sommes les témoins pour les autres aussi de ces trois lieux essentiels de la présence du ressuscité dans notre vie quotidienne, l'accueil de la parole de Dieu, l'Eucharistie et la rencontre des frères. Une dernière réflexion pour ce matin sur ce texte des disciples d'Emmaüs. Cela renvoie à notre propre parcours d'accueil de la parole de Dieu. Ce grand texte de Saint-Luc fonctionne comme une sorte de mise en récit de l'ensemble du parcours de la pédagogie de la Lectio Divina. La première étape, la lecture, peut correspondre à ce moment où les disciples sont en route vers Emmaüs et où Jésus vient les rejoindre. Il vient les rejoindre à un moment de leur route, comme dans la première étape qui est la lecture, la parole de Dieu vient nous rejoindre là où nous sommes. La deuxième étape qui est la méditation correspond au moment où Jésus prend la parole après avoir écouté les disciples d'Emmaüs, au moment où il ouvre leur cœur à l'intelligence des Écritures. Ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire, commençant par Moïse, parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà pour le temps de la méditation. Et nous en arrivons ensuite aux deux dernières étapes de la pédagogie de la Lectio Divina, celle d'ailleurs qu'il vous reste à vivre durant cette journée pour l'après-midi de ce jour. J'y reviendrai dans quelques instants. Ces deux dernières étapes, la prière de réponse et la contemplation, c'est ce que nous voyons dans la suite du récit des disciples d'Emmaüs. En effet, la prière de réponse correspond au moment où, après avoir accueilli cette parole et l'avoir méditée, ils deviennent capables d'exprimer leurs propres paroles, d'exprimer surtout leurs désirs. Reste avec nous, Seigneur, car le soir tombe et le jour déjà touche à son terme. Reste avec nous, Seigneur. Cette prière qui est peut-être la toute première prière chrétienne, le soir même de la résurrection. Voilà comment l'Église ne cesse d'invoquer le Christ ressuscité. Reste avec nous, Seigneur. Voilà peut-être comment nous pouvons aussi, nous-mêmes aujourd'hui, formuler notre prière de réponse. Reste avec nous, Seigneur. La dernière étape, qui est la contemplation, correspond à ce moment où Jésus, qui reste avec les disciples dans leur maison, par la fraction du pain, veut manifester sa communion avec eux, au point qu'il peut disparaître à leurs yeux, à leurs regards, et rester pour toujours présent dans leur cœur. Tel est bien le sens de la contemplation au terme de ce parcours de l'accueil de la parole de Dieu. Dans la seconde partie de la conférence de ce matin, nous y arrivons maintenant. Je vous rappelle que j'aborde chaque jour un élément de la pédagogie de la Lectio Divina et pour les premiers jours, il s'agit de continuer à mettre en place le rythme de notre journée de retraite. Vous avez déjà pris le temps de lire et de méditer. Il vous restera pour cet après-midi à formuler votre prière de réponse, un peu comme les disciples ont exprimé à Jésus « Reste avec nous ». Et puis à entrer dans la contemplation. Je voudrais maintenant m'arrêter sur ce troisième temps d'accueil de la parole qui va vous permettre, comme je viens de le préciser, de formuler votre propre parole, de répondre à cette parole que vous avez reçue. Très concrètement, je vous invite à prendre un temps dans l'après-midi, peut-être en début d'après-midi, pour reprendre tel ou tel des textes à partir desquels vous avez pu développer la méditation. Peut-être aussi, pourquoi pas, les textes complémentaires qui sont proposés sur la feuille des références, mais pas forcément. Vous n'êtes pas obligé non plus de tout relire. C'est plutôt de vous appuyer sur ce que vous avez déjà reçu de la parole de Dieu, sur ce que vous avez médité, pour que tout cela vous donne les mots de votre réponse. Dans ce troisième temps de Lectio Divina, commencez comme toujours par le signe de la croix et par invoquer l'Esprit Saint. Reprenez donc les textes de la parole de Dieu qui vous ont le plus fait cheminer jusque-là. Et à partir de là, exprimez votre propre réponse. À propos de cette prière de réponse, je vous rappelle donc que c'est la troisième étape de la pédagogie de la Lectio Divina, lecture, méditation, prière de réponse et contemplation. Et cette troisième étape est très importante parce que si nous ne passons pas à cette prière de réponse, nous en restons à une parole qui vient d'en haut, qui vient nous rejoindre, mais qui s'arrête à nous. Alors que cette parole, dans notre cœur, est faite précisément pour nous donner la parole et pour que cette relation puisse se prolonger par notre réponse, que nous puissions entrer de tout notre cœur dans cette relation que la parole de Dieu nous ouvre. Je ne sais pas si ce matin vous avez écrit votre méditation, ça peut être une bonne chose à faire. Je vous invite en tout cas pour la prière de réponse, pourquoi pas, à écrire votre prière de réponse, à formuler cette manière dont vous allez prendre la parole à partir de la parole reçue. Et si vous ne savez pas très bien comment formuler votre prière de réponse, vous pouvez très bien vous appuyer sur l'exemple des psaumes. Les psaumes, au cœur de l'Écriture, c'est précisément le temps de la prière de réponse de tout le peuple à la révélation qu'il a reçue de la part du Seigneur. Les psaumes nous apprennent justement à exprimer ce que nous portons en nous, ce que la parole de Dieu vient faire surgir dans notre cœur, et comment est-ce que cette parole de Dieu précisément nous donne les mots qui vont nous aider à formuler notre prière. Pour cela, vous pouvez par exemple vous inspirer de la parole des disciples d'Emmaüs à Jésus, « Reste avec nous, Seigneur ». Vous pouvez vous inspirer d'autres paroles que l'on trouve dans l'Écriture et qui ont permis au peuple ou à des personnages de l'Écriture d'exprimer leur prière. Un père de l'Église qui s'appelle Saint Jean Cassien distinguait quatre formes possibles de cette prière de réponse. Notre prière de réponse peut être une prière qui implore le pardon de nos fautes, qui invoque la miséricorde du Seigneur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi, pécheur. Ensuite, la prière de réponse peut aussi prendre la forme d'une réponse directe à la parole du Seigneur qui nous est donnée, d'une réponse à un appel du Seigneur, d'un acte de foi, d'un acte de confiance, d'un oui, d'un fiat, d'un me voici. Troisièmement, la prière de réponse peut prendre la forme aussi d'une prière d'intercession, d'une supplication, ou pour soi-même, ou surtout pour les autres, pour ceux qui nous sont confiés. Et enfin, quatrième forme que peut prendre notre prière de réponse, c'est la prière de louange et surtout la prière d'action de grâce. Rendre grâce pour l'amour que le Seigneur nous révèle, pour le salut qu'il nous a obtenu, pour toute la sollicitude qu'il exprime pour chacun de nous, parce qu'il nous rejoint sur nos routes, parce qu'il vient transfigurer nos cœurs et nos vies, parce qu'il nous fait le don de sa parole, parce qu'il nous manifeste sa présence. En quelques mots, c'est toute une gamme de réponses possibles à cette parole de Dieu que nous avons reçue. Alors, dans le temps que vous allez prendre cet après-midi, ne cherchez pas à répondre de toutes les manières possibles, mais voyez comment est-ce que l'Esprit-Saint vous inspire votre propre réponse par rapport à cette parole de Dieu que vous avez reçue et méditée. Cet après-midi, après le troisième temps de Lectio Divina dont je viens de parler, vous pourrez écouter la conférence de l'après-midi et puis prévoir un dernier temps pour un temps de prière plus contemplative, un temps de silence pour vivre précisément de cette présence du ressuscité qui s'est manifestée aujourd'hui à vous comme il l'a fait aux disciples d'Emmaüs. Je vous souhaite une très belle journée d'accueil de la parole de Dieu.